Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Justin Vess, qui est à la fois universitaire et diplomate. Vous dirigez le Centre d'analyse de prospective et de stratégie, mais également, et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, le Forum de Paris pour la paix qui va se tenir les 11, 12, 13 novembre. Alors, en quelques mots, quel est ce grand forum qui va réunir des dizaines de chefs d'État étrangers, ainsi que de nombreux secrétaires généraux, présidents d'organisations internationales?
Bonjour Pascal, il ne vous aura pas échappé à vous que le système international ne va pas bien, que les normes, les institutions sur lesquelles on avait pris l'habitude de se reposer sont contestées, que le système de sécurité en particulier est en mauvais état, blocage du Conseil de sécurité, le budget de l'ONU diminue, tous les budgets militaires augmentent, Internet est une sorte de jungle où prolifèrent les hackers et les propagandistes. On perd la guerre contre le réchauffement climatique. Enfin bref, je pense que quiconque s'intéresse aux affaires nationales constate que il y a un problème. Et ce problème, c'est celui de la coopération, de l'action collective, bref, du multilatéralisme. Et l'idée qui a été celle du président Macron à l'été 2017, c'est de se dire... après tout, il y a chaque année une conférence sur les affaires économiques, hein, c'est Davos. Il y a chaque année plusieurs conférences sur les affaires de sécurité, le Shangri-La Dialogue, le Manama Dialogue, la conférence de sécurité de Munich, etc. Mais il n'y a rien pour sur l'agenda des leaders et des opinions publiques pour ceux qui estiment que la coopération, l'action collective, les normes, la régulation sont des outils utiles. Et donc l'idée était de faire un rendez-vous annuel qui commence en 2018 sur la gouvernance mondiale, alors qu'on appelle Forum de Paris sur la paix parce que, d'une part, il se fait un siècle après l'armistice de 1918 et, d'autre part, il est concentré donc sur ces questions d'organisation de la planète, de coopération, qui sont la seule façon de faire baisser les tensions, de résoudre les problèmes communs type, changement climatique, évasion fiscale, migration, gestion de la gouvernance de l'Internet, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire se rencontrer une fois par an, à la fois les chefs d'État et de gouvernement, et puis les autres acteurs de cette gouvernance mondiale, c'est-à-dire les ONG, les entreprises, les syndicats, les groupes religieux, les experts, bref, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont nécessaires pour répondre à ces défis qui dépassent les frontières.
Et donc, cela aura lieu à l'occasion du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est appelé à devenir un rendez-vous récurrent, régulier, chaque année, à la même période.
Oui, alors, l'idée de départ, c'est que en 1918, s'est ouvert une période de paix qui a été à la fois joyeuse, parce qu'elle mettait fin à une boucherie qui a été la Première Guerre mondiale, mais aussi à une période très troublée, turbulente, qui n'a duré que 20 ans et qui a été une paix gâchée en quelque sorte. Une paix gâchée pour plein de raisons, mais notamment parce que la gouvernance mondiale à cette époque-là, et en particulier dans les années 30, a fait défaut. La Société des Nations n'a pas tenu ses promesses et n'a pas pu réguler les questions de paix et de sécurité en termes de commerce, de protectionnisme, de guerre commerciale. En termes financiers, les pays ont cessé de coopérer et tout cela a aggravé la crise créée par les régimes autoritaires et totalitaires et conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, un siècle après 1918, l'idée est de se ressaisir et de se dire on peut faire mieux que nos ancêtres et il faut essayer justement de discuter de ces problèmes communs.
Alors derrière cela, il y a aussi deux objectifs peut-être plus concrets. Le premier, et vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y avait pas, comme vous l'avez dit, en France, ce grand rendez-vous stratégique qui existe dans d'autres pays et la France était un petit peu en retard par rapport à ce que l'on appelle le soft power, par rapport à l'implication dans le débat d'idées. Donc est-ce qu'il s'agit aussi pour la France de marquer les esprits et de marquer également son espace pour dire que le débat sur les grandes affaires mondiales n'a pas seulement lieu en dehors de la France et que nous sommes capables également non seulement d'y participer activement, mais même de l'organiser.
Absolument, c'est un des objectifs du Forum de Paris sur la paix. Vous savez, Paris, en fait, et ça on le sait insuffisamment, est une capitale multilatérale. À Paris, il y a l'OCDE, il y a l'UNESCO, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, il y a l'Agence internationale de l'énergie, la Chambre de commerce internationale et notamment les cours d'arbitrage qui s'y rattachent. Enfin bref, Paris, c'est un peu la capitale de la régulation. Pensez aussi à la COP21, il y a 3 ans, toute cette expérience accumulée. Donc la France joue ce rôle-là et pourtant... elle est rarement le lieu où l'on vient discuter de ces normes, de ces questions internationales. Et donc, ce qu'on a voulu simplement, c'est cristalliser en quelque sorte toute cette énergie, toute cette réflexion, et la mettre au service, en effet, de cette ambition du multilatéralisme et d'un travail plus coopératif entre nations et entre acteurs de cette gouvernance-là.
Ce qui peut être aussi original, mais ça avait été déjà le cas pour la COP21, c'est d'avoir une approche qui n'est pas seulement interétatique. Il y a donc les grandes têtes d'affiche, puisqu'on annonce des gens comme Poutine, Trump et bien d'autres encore, et puis aussi bien sûr le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la plupart de ces grands dirigeants, mais aussi, vous avez insisté sur qu'il y ait à la fois, en fait, les autres acteurs, puisque la vie internationale n'est plus simplement le fait des États, et donc tous ceux qui pèsent un peu, qu'il s'agisse des grandes sociétés, des ONG, de ce qu'on appelle la société civile, dont le rôle est de plus en plus important, vous avez tenu à ce qu'ils soient présents et actifs.
Exactement. On ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique sans impliquer les entreprises, les fonds de pension et d'autres. On ne résoudra pas le problème de la gouvernance d'Internet, par exemple, sans impliquer les GAFA, mais aussi les entreprises chinoises et d'autres. C'est simplement impossible. On ne résoudra pas non plus les grandes questions de type paradis fiscaux et autres, sans impliquer les organisations internationales, l'OCDE et d'autres. Et donc, on voit bien que pour ces questions-là, on a besoin d'avoir tout le monde autour de la table, les ONG, les fondations, les organisations nationales, les gouvernements locaux aussi, je dirais. Hein, le rôle que joue la Californie, par exemple, dans le climat est vraiment très important et c'est clé. En revanche, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'en effet, l'ONU reste au centre des efforts de gouvernance mondiale. L'ONU reste, disons, l'organisation centrale et centralisatrice en termes de gouvernance, et c'est pour ça que le Forum de Paris sur la paix sera ouvert par un discours d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
Alors, ce grand forum avait été annoncé dans son esprit, mais sans que ce soit très concret à l'époque, lors du premier discours devant les ambassadeurs du chef de l'État en 2017, en août 2017. Il a fallu, par rapport à l'ampleur de la tâche, parce que vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots comment ça va se passer, le temps a été assez court pour le préparer.
Oui, on n'a pas eu beaucoup de temps, surtout qu'on voulait évidemment viser juste du premier coup, puisque c'est cette année, en 2018, qu'on a cette affluence de chefs d'État en raison des commémorations du 11 novembre. En gros, le dimanche 11 novembre au matin, les chefs d'État et de gouvernement vont faire la cérémonie de commémoration à l'Arc de Triomphe, donc en souvenir de la Première Guerre mondiale, puis déjeuner à l'Élysée, puis ils vont inaugurer le Forum de Paris sur la paix, c'est-à-dire le matin, en quelque sorte, le passé et sa signification pour le présent, et l'après-midi, le travail sur le présent et l'avenir de la gouvernance mondiale. On a donc, après cette impulsion donnée par le président de la République, on a créé une structure indépendante, une association de loi 1901 avec plusieurs membres fondateurs et puis plusieurs partenaires institutionnels en France, la mairie de Paris et l'IRIS, par exemple, jusqu'à l'ONU, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale et beaucoup d'autres. Et puis, on a commencé à bâtir tout ce forum autour de projets concrets, parce que c'est ça l'autre aspect. On n'est pas simplement dans la stratosphère, on n'est pas simplement...
Ce ne sera pas qu'une suite de grands discours de chefs d'État.
Exactement. Tout le forum est bâti autour de solutions de gouvernance, de projets portés par des entreprises, des ONG en très grand nombre, des États. Vous voyez, il y a tout depuis, en gros, le projet des routes de la soie chinoises, qui est un projet de gouvernance multilatérale qu'on peut discuter, dont on peut discuter.
Oui, parce que le président de la République, dans son discours devant les ambassadeurs, l'a qualifié à la fois de projet, d'un des plus grands projets stratégiques de cette période, et en même temps, éventuellement, ayant des potentielle tentation hégémonique.
Absolument, donc, absolument, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut en discuter et tous les projets seront discutés. Autre exemple, le CICR, la Croix-Rouge, présente son projet Missing Persons qui vise à mettre en place un système international pour retrouver les personnes disparues, qu'il s'agisse de migrants disparus en mer ou de personnes disparues dans d'autres pays. Microsoft pousse cette idée des principes pour une paix digitale où chacun des acteurs du cyberespace, État, évidemment, grandes entreprises du net, utilisateurs, etc., s'engageraient à un certain nombre de principes pour assurer la paix digitale. On a une foule d'ONG d'Europe et du Sud et d'Amérique qui viennent présenter. Bref, tout le travail se fait autour de ces idées pour Au fond, on vise deux buts avec le Forum de Paris sur la paix. Le premier, c'est de rappeler que on a des biens communs qu'on ne peut gérer que collectivement et que donc le multilatéralisme est important, donc une visée politique très générale pour réaffirmer ça. Et puis, d'autre part, faire avancer tous ces projets de gouvernance et démontrer, en marchant, entre guillemets, qu'il est encore possible de faire des progrès, même dans ce monde d'unilatéralisme et de compétition.
Il y a quand même en même temps un projet, j'irais, politique de la part du président de la République. Il s'est présenté encore cette année devant l'Assemblée générale des Nations Unies comme le champion du multilatéralisme, au moment où, effectivement, comme vous l'avez dit, celui-ci est profondément en crise. Et donc, est-ce que c'est aussi une façon pour le président Macron de poser sa marque sur ces affaires-là et de tenter d'incarner un recours par rapport à cette crise multiple et multiforme que subit le multilatéralisme?
Probablement, mais je dirais que c'est surtout par défaut, c'est-à-dire que les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient auparavant, et au contraire, ils jouent un rôle qui est plutôt destructeur des institutions, des normes et du multilatéralisme. Trump a tendance plutôt à miner ces institutions multilatérales. Poutine a tendance à les bloquer, et Xi Jinping a tendance à les contourner, si on veut une formule...
Le président chinois sera là ?
Et élégante. Alors ça, on ne sait pas encore, on n'a pas encore de réponse. Le président chinois donne toujours sa réponse assez tardivement, donc on ne sait pas. Il est possible qu'il soit là. C'est-à-dire que, vous voyez, pour la Chine, il y a tout de même un souci, c'est qu'il y a à la fois les commémorations de la Première Guerre mondiale et le Forum de Paris sur la paix, et pour la première partie, les commémorations, la Première Guerre mondiale n'est vraiment pas un bon souvenir pour les Chinois, parce que non seulement ils ont envoyé essentiellement des travailleurs en Europe pour remplacer les ouvriers partis se battre, mais ils ont en plus fait les frais en quelque sorte, de la Première Guerre mondiale, avec une province qui leur a été retirée ensuite. Donc voilà, ça explique en partie l'hésitation de Xi Jinping.
Alors donc, champion du multilatéralisme, mais on annonce l'arrivée de Trump, est-ce que c'était pas un peu paradoxal que celui qui passe aux yeux d'un nombre important de personnes pour le contribuant, si ce n'est à lui seul, mais en tout cas contribuant à dynamiter le système et n'ayant pas un rôle tout à fait compatible avec la sécurité collective, qu'il vienne s'exprimer devant un tel forum?
Trump a confirmé qu'il venait le 11 novembre à Paris. Il n'a pas encore confirmé qu'il venait au Forum de Paris sur la paix. Et en effet, objectivement, la question se pose, puisque le Forum est bâti tout entier sur des idées qu'il rejette. La coopération internationale, la gouvernance globale. Souvenez-vous de sa phrase la semaine dernière aux Nations Unies dans son discours devant l'Assemblée Générale. Nous rejetons l'idéologie du globalisme et nous épousons la doctrine du patriotisme. Bon, je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire, mais enfin en gros, ça veut dire que tout ce qui est ONU, multilatéralisme, etc., ça ne lui plaît pas beaucoup, et que l'unilatéralisme, le America First, c'est bon. Donc, en effet, je pense qu'il faut... discuter avec le président Trump et ce que représente le président Trump, hein, parce que c'est pas lui personnellement, hein, il incarne quelque chose qu'on voit aux États-Unis et qu'on voit dans beaucoup d'autres pays, y compris en Europe. Et donc il faut dialoguer. Mais en même temps, comme vous le disiez, il y a un paradoxe, ou il y aurait un paradoxe à ce que il vienne marquer de sa présence un forum qui est essentiellement dédié au renforcement du multilatéralisme et de la coopération institutionnelle.
Surtout qu'il a déjà attiré des rires lors de l'Assemblée générale des Nations Unies devant un public de chefs d'État et de gouvernement, et là, ça sera un public beaucoup plus diversifié, avec des ONG qui ont peut-être encore moins d'appétit pour lui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, on peut aussi penser que le dialogue est nécessaire et que peut-être il peut émerger quelque chose de ça. Donc, encore une fois, on ne sait pas s'il sera là. Ça se passera à la Grande Halle de la Villette, au nord-est de Paris. Et donc, voilà, on ne sait pas si le président...
Et il y aura aussi beaucoup d'ateliers. En dehors des... Disons que les gens pourront présenter leurs projets. Il y aura donc une partie qui seront consacrées à la partie officielle, discours classique. Mais vous insistez sur le fait qu'il y ait des endroits plus interactifs et participatif.
Oui, ça, en ce sens, ça n'est pas Davos. Davos, c'est un endroit où essentiellement on parle, c'est-à-dire il y a des panels, des rencontres, des keynote speech, comme on dit, c'est-à-dire des discours en tribune. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on va au Forum de Paris sur la paix, tout bâtir autour des projets avec en gros trois espaces. Un espace où ces projets sont présentés, donc ça a un côté Foire de Paris, si vous voulez, enfin, ou Salon du Livre, c'est plus prestigieux, où on pourra aller voir tous ces projets d'organisation internationale, d'ONG, d'État, etc. Une partie débat, mais ces débats portent non pas sur des questions abstraites, ça ne porte pas sur le réchauffement climatique, par exemple, mais ça porte sur les solutions. Ça porte sur le pacte pour l'environnement, ça porte sur l'Alliance solaire internationale, ça porte sur l'utilisation de telle ou telle technologie pour résoudre le problème de l'atténuation du changement climatique. Et puis enfin, un troisième espace qui est un espace pour un hackathon, donc pour disons une compétition entre programmeurs et codeurs, qu'on a axé cette année autour du thème de la transparence financière.
Et alors, tout le monde ne pourra plus y accéder. Qui pourra assister à l'ensemble de ces débats, propositions comment va se faire, avec en plus des questions assez lourdes, j'imagine, de sécurité, comment va pouvoir se faire l'accès et comment pourra les gens qui ne pourront pas y rentrer pourront bénéficier de tous ces échanges?
Alors oui, c'est un peu l'élément frustrant, c'est que la Grande Halle est grande, mais pas géante. Elle ne fait que... Enfin, nous, on a environ que 9 000 mètres carrés et on a à l'intérieur des stands, des espaces de débat, etc. Et donc la sécurité, surtout en tenant compte de ce qui se passera le dimanche 11 novembre après-midi, c'est-à-dire toute la visite des chefs d'État, et je pense qu'on aura environ 70-80 chefs d'État présents, nous impose de restreindre énormément les nombres possibles. Et puis évidemment, c'est un événement universel, c'est-à-dire que en gros, le public ne peut pas être qu'un public français ou parisien, ou même européen, ou même occidental. Et donc, on a fait un système où l'on peut demander une invitation sur le site, mais évidemment, on est obligé de restreindre beaucoup l'accès des locaux pour laisser de la place aux Africains, aux Latino-Américains, aux Asiatiques et à d'autres. Alors en revanche, il sera possible de suivre les débats, et en particulier les débats du dimanche après-midi, puisque les interventions du secrétaire général des Nations Unies, d'Angela Merkel et de tous les chefs d'État et de gouvernement seront retransmises sur des chaînes Internet, soit sur Google, soit sur Facebook.
Alors vous êtes à la fois historien et spécialiste des États-Unis. Le multilatéralisme est en crise. Comment l'analyser par rapport aux espoirs déçus de sortie de guerre froide où chacun évoquait le nouvel ordre mondial? En quelques mots, comment en est-on arrivé là? Vous faites le constat, et chacun le fait, qu'il y a une profonde crise du multilatéralisme. L'ONU, effectivement, se porte pas bien. On réduit son budget. L'UNESCO est en crise. L'OMC serait contestée. On pourrait même se demander si toutes ces organisations seraient aujourd'hui recréées, pourrait être créée si elle n'existait pas.
Oui, et je pense que enfin, de mon point de vue, la réponse est contenue dans la question, et c'est donc non. Alors, de la même façon qu'on pourrait dire que, puisqu'on célèbre les 70 ans la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration ne serait jamais acceptée aujourd'hui, ce serait impossible. Je pense qu'il y a un élément central, si on veut simplifier un peu, pour expliquer cette crise du multilatéralisme, c'est le changement dans la répartition de la puissance dans le système international. Il est évident que là, il faut regarder la position des États-Unis par rapport au reste du monde, et que cette période qui a suivi la guerre froide, qui était une période peut-être pas d'unipolarité américaine, mais enfin tout de même où les États-Unis exerçaient un poids prédominant dans le système, n'est plus évidemment à présent, qu'elle a été remplacée par de plus en plus une multipolarité. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sont devenus impuissants, mais ça veut dire que leur poids est relativisé par la montée en puissance de la Chine, mais aussi de l'Inde, du Mexique et de beaucoup d'autres, et que donc cette répartition différente, cette multipolarité plus grande, rend le multilatéralisme à la fois plus nécessaire et plus difficile en réalité. Très concrètement, ça veut dire que les règles, les institutions qui fonctionnaient à peu près quand il y avait un patron, disons, sont de moins en moins respectées. Alors ça tient à des choses concrètes, ça tient aux excès que les États-Unis ont commis, guerre d'Irak, crise financière, etc., qui ont contribué à accélérer cette multipolarité. Ça tient au fait que les nouveaux venus qui ont bénéficié de ce monde américain, en quelque sorte, hein, la Chine a fait sa croissance dans un monde américain, en réalité, un monde garanti par les États-Unis, que ces nouveaux venus, disais-je, sont insatisfaits, enfin disons, doivent utiliser des règles et des institutions qui n'existaient pas eux n'existaient pas ou eux n'étaient pas puissants au moment où ces règles et ces institutions ont été créées. Et donc on ne peut pas s'étonner qu'ils aient une certaine distance. Et puis enfin, dernier élément, qui est le corollaire de ça, aux États-Unis même, il y a une contestation de ces institutions parce que ce monde américain qu'on a connu pendant la guerre froide et dans les 10-20 ans qui ont suivi, beaucoup estiment qu'il ne fonctionne plus au bénéfice des États-Unis. Et c'est tout le sens de l'élection de Trump, c'est-à-dire la classe moyenne inférieure américaine se dit... les règles commerciales ont fait que mes emplois manufacturiers ont disparu, ils ont été mangés par l'accord avec le Mexique, par l'entrée de la Chine à l'OMC, etc. Donc désindustrialisation, perte des emplois. La culture américaine a changé, il y a eu un noir à la Maison Blanche, il y a eu des guerres culturelles perdues, l'égalisation du mariage homosexuel, etc. Enfin, une réaction également culturelle, et puis enfin une réaction géopolitique, c'est-à-dire... Pourquoi est-ce que nous, les États-Unis, on se battrait pour garantir un ordre mondial qui bénéficie finalement à la Chine, à l'Arabie Saoudite et à d'autres? Et pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas tous ces atouts de puissance que nous avons pour les faire jouer à notre bénéfice? D'où donc une sorte de retour d'unilatéralisme et que les États-Unis eux-mêmes, on le voit sous Trump, se tournent contre ces règles et ces institutions pour regagner un avantage qu'ils estiment avoir perdu.
Vous êtes le biographe de Zbigniew Brzezinski qui plaidait pour ce que l'on pourrait, je ne sais pas si vous serez d'accord avec la formule, mais pour une sorte de leadership multilatéralisé en disant que si les États-Unis veulent continuer à jouer les premiers rôles dans le monde, ils doivent faire plus de place à leurs alliés, les écouter plus. Et en fait, il plaidait donc pour un leadership incarné par un certain multilatéralisme. Est-ce qu'une telle figure pourrait revenir ou est-ce que c'est une époque qui révolue ?
Ben, je crois, pour revenir à la raison centrale de la crise du multilatéralisme, c'est-à-dire le changement dans la répartition de la puissance, je pense que la marge de supériorité américaine permettait une certaine générosité ou une certaine vision éclairée du leadership international. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hégémonie américaine créée par la situation de la Seconde Guerre mondiale, avec une supériorité écrasante des États-Unis, les États-Unis en 45, c'est 50% du PIB mondial, la moitié du PIB mondial. Et donc, il était facile d'être généreux dans ces conditions-là, de garantir la protection des alliés, de faire des accords commerciaux relativement généreux. C'est beaucoup plus difficile lorsque, en gros, on est en train de se faire dépasser par une autre puissance, la Chine, et que derrière la Chine, d'autres puissances montent en graines. Je dirais aussi que on peut avoir des hommes d'État éclairés, mais que ils font avec les cartes qu'on leur donne. Et encore une fois, la marge de supériorité américaine est insuffisante. Si vous comparez avec la Chine a acquis une certaine marge de supériorité, mais là encore, elle est insuffisante pour vraiment changer la donne, pour, justement, offrir ses biens communs, pour offrir ses services publics internationaux, et donc elle offre les routes de la soie et d'autres choses, mais où on voit que l'hégémonie est assez mal cachée en réalité derrière ces offres, simplement parce que, encore une fois, elle ne peut pas être, elle domine, mais elle ne domine pas suffisamment pour offrir autant, à ses alliés que les États-Unis. Mais il est certain, pour conclure, que quand on domine, il vaut mieux dominer en faisant participer les autres à l'ordre qu'on a institué, parce que c'est ainsi qu'on obtient leur consentement et qu'on obtient un système international plus pacifique et qui marche davantage à votre profit.
Vous parliez des États-Unis qui rejettent le multilatéralisme, de la Chine qui le contourne et de la Russie qui le bloque. Quels sont les partenaires de l'Europe et de la France pour un plaidoyer pour le multilatéralisme dans ce monde-là?
C'est un peu la raison pour laquelle je disais que de la part du président Macron, c'est plutôt un leadership par défaut, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas les autres, parce que Trump a disparu, parce qu'en Europe, il y a le Brexit, il y a la situation italienne qu'on connaît, il y a l'affaiblissement politique relatif d'Angela Merkel. Et donc, par défaut, il reste une personne qui incarne cet espoir de coopération internationale, c'est Emmanuel Macron. Maintenant, évidemment, il faut des alliés pour ça. Par qui est-il suivi? Évidemment, il n'y en a pas énormément. Il y a les Canadiens, les Suédois, les Australiens, mais plus, de façon plus importante, je dirais, il y a ceux qui comprennent que l'ordre multilatéral est précieux pour leur croissance, est précieux pour leurs exportations, etc. Il y a l'Inde, le Mexique, le Brésil et plusieurs autres grands émergents qui peuvent constituer autant d'alliés sur telle ou telle question. Le Nigeria également, l'Afrique du Sud. Et puis enfin, je dirais, il y a tous ceux qui, dans les grandes entreprises multinationales, dépendent de ce monde ouvert pour prospérer. Or, on voit bien que ce monde est en train de se fermer avec les guerres commerciales, avec les guerres tout court. Et donc, ce sont là aussi des alliés pour préserver, encore une fois, cette ouverture dont nous dépendons tous, puisque maintenant, les économies sont ouvertes.
Merci Justin Vest. Donc rendez-vous les 11, 12, 13 novembre pour le Forum de Paris pour la paix. Vous pouvez peut-être rappeler le site internet sur lequel on peut consulter le programme.
Oui, alors le site du Forum de Paris sur la paix, c'est parispeaceforum.org. On a choisi sa version anglaise internationale, donc parispeaceforum.org.
Merci Justin Vest.